Chères auditrices, chers auditeurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de refuge. Voici deux définitions que nous donne le dictionnaire. Un refuge, lieu, endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Exemple, l'évadé avait trouvé refuge dans une grange. Ou bien, dans un sens plus littéraire, ce à quoi on recourt dans une situation ou un moment difficile, dont on attend une aide, un réconfort. Exemple, désabusé, le mari ou la femme trompée a cherché refuge dans la boisson. Mais c'est là un bien mauvais choix, une échappatoire bien trompeuse. Toutefois, notre intention n'est pas de blâmer ceux ou celles qui se sont adonnés à la consommation d'alcool ou tout autre subterfuge, comme les substances hallucinogènes, par dépit, car ce refuge illusoire n'a fait qu'aggraver leur situation. Lorsque nous proclamons l'Évangile, nous annonçons la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que Jésus, le Fils unique et bien-aimé du Père, a lancé un appel, une invitation à tous ceux et celles qui sont désabusés, accablés, malheureux, en quête, en quelque sorte, d'un vrai refuge. Je lis Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En nous proposant du repos, Jésus nous convie à une triple démarche. D'abord, venir à lui, puis prendre son joug, et ensuite, recevoir ses instructions. Pourquoi venir à lui et pas à un autre? Les réponses sont multiples. Jésus est celui que Dieu nous a envoyé du ciel, car de toute éternité, Jésus était auprès du Père, Dieu créateur avec le Père, et ne faisant qu'un avec lui. Jésus est la réponse divine à l'appel au secours du prophète Ésaïe. Je lis Ésaïe chapitre 63, verset 19. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. » L'apôtre Paul le souligne dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 2 et au verset 9 quand il écrit « Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Les évangiles nous présentent Jésus ému de compassion. Il ne reste pas indifférent à la souffrance humaine, qu'elle soit chez un individu en particulier ou qu'elle soit massive dans une foule. Je lis dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je lis aussi Matthieu chapitre 20, verset 30. Il y avait là, à la sortie de la ville de Jéricho, deux aveugles. Et au verset 34, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. De même pour ce lépreux qui a osé s'approcher de lui avec foi, en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » La réponse est sans ambiguïté. Je lis au verset 41, « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Non seulement Jésus appelle à venir à lui, mais il a aussi précisé, je cite, Jean chapitre 10, verset 37-38, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Venir à lui, voilà le premier pas à faire pour ceux qui cherchent le repos. Venez à lui tel que vous êtes. Et l'Écriture nous encourage aujourd'hui par cette affirmation. Je lis Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis, Jésus nous dit de prendre son joug. Depuis que les tracteurs ont remplacé les attelages de bœufs dans le labourage des champs, l'image de deux animaux attelés et unis par la pièce de bois posée sur leur cou s'estompe quelque peu. Jésus nous propose de nous unir, de nous associer à lui. Dans la liste des ordonnances transmises par Moïse au peuple d'Israël, il y a cette prescription, Deutéronome chapitre 22, verset 10, « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Cela souligne qu'il ne faut pas former d'attelage disparate, les forces des deux étant inégales. En prenant le joug de Jésus, nous nous trouvons à ses côtés, à son égal. En fait, c'est lui qui, en paraissant comme un simple homme, s'est mis à notre niveau pour nous élever au sien. C'est lui qui fait l'œuvre. Tout ce que Dieu nous accorde, tout ce que nous le recevons par grâce, par le simple fait que nous croyons Dieu, que nous croyons ses paroles et que nous répondons à son invitation. Ensuite, Jésus précise que son joug est doux et son fardeau léger. Au sens figuré, être sous un joug signifie être asservi, subir une contrainte, une domination, être privé de liberté. Avec lui, il en est tout autrement. Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Lors du grand débat qui avait motivé la conférence de Jérusalem et qui nous est rapporté dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre déclare « Dieu n'a fait aucune différence entre nous et les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » La dernière phrase de la triple démarche que Jésus nous propose quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, êtes, je cite, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Venant d'un cœur humble et doux, les instructions sont vivifiantes. Dans Jean chapitre 15, versets 11 et 12, Jésus s'adresse à ses disciples et déclare « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Bien-aimé, les bras de Jésus sont ouverts pour toi aujourd'hui. Son amour pour nous n'a pas varié. Il est égal à l'amour qui l'a conduit jusque sur la croix. Quand on l'a abaissé au rang des malfaiteurs, il s'est laissé faire, comme le souligne le prophète Ésaïe, tel un agneau qu'on mène à la boucherie, tel une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il n'a pas protesté, il n'a pas crié à l'injustice. Et quand il a parlé, c'est pour préciser, Jean chapitre 10, verset 18, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et concernant ceux qui le crucifient, il prie en leur faveur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, Jésus t'aime. Il t'attend. Approche-toi simplement de lui. » L'auteur du psaume 73, Asaph, dont il est dit qu'il était prophète, et chef de ceux auxquels le roi David avait confié la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Asaph donc nous fait part du trouble qui agite son cœur et comment il a trouvé la sérénité après avoir fait le constat de sa stupidité. Et voici les résolutions avec lesquelles il termine ce psaume 73 au verset 26. « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Verset 28, « Pour moi, M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Nous faisons maintenant une pause musicale.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien.
Poursuivons notre propos concernant le refuge dont chacun de nous a besoin, que tout individu recherche, parfois même sans en avoir conscience, car la soif de bonheur, de paix, de sérénité est dans le cœur de chacun. Nous avons évoqué en début d'émission, sans aucune arrière-pensée de condamnation, ces refuges illusoires que sont les beuveries ou la consommation de drogues même dites douces. Nombreux sont ceux qui nous ont dit leur désillusion et les drames dans lesquels ils se sont retrouvés après s'être adonnés, par dépit ou simplement par curiosité et recherche du bonheur, à ces paradis artificiels. Pendant un temps, hélas toujours trop long, ils ont été ivrognes, toxicomanes ou alcooliques. Mais gloire à Dieu, en venant à Jésus, ils ont été délivrés et ont retrouvé la liberté et leur dignité humaine. Il est un refuge dont je veux souligner maintenant les limites. C'est l'argent. Qui n'aspire pas à la sécurité financière? C'est légitime. Lorsque j'étais allé voir mon patron pour lui demander une augmentation de salaire, il m'avait dit ceci. « Je ne suis pas attaché à l'argent, c'est pourquoi j'en ai beaucoup. » Alors j'ai répondu « Moi non plus je ne suis pas attaché à l'argent. » Mais il m'en faut quand même un peu. Et il m'a accordé l'augmentation demandée. Dans Proverbes chapitre 18, verset 11, il est écrit « La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. » Nous le savons tous, l'argent permet d'acheter la nourriture, mais pas l'appétit. Il sert à acheter le médicament, mais pas la santé, les distractions, mais pas le bonheur. Malgré cela, l'appât du gain entraîne régulièrement des gens crédules dans les pièges d'escrocs qui les ruinent. Et que dire de ceux qui, volontairement, se font dépouiller avec les jeux de hasard, toujours plus nombreux et variés pour nous assurer de devenir riches du jour au lendemain et sans effort. Assurément, ce sont les organisateurs qui s'enrichissent, au détriment des parieurs. L'Écriture nous dit, à propos de ceux qui s'illusionnent avec leur fortune, qu'ils n'emportent rien en mourant, que leurs trésors ne descendent point après eux. Elle nous précise aussi, psaume 49, verset 8, qu'ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Tout au long des Écritures, une vérité constamment soulignée. Le ciel n'est pas à vendre et les grâces de Dieu ne peuvent être achetées. Lorsque Simon le magicien propose à Pierre de l'argent, en demandant à recevoir le pouvoir de communiquer le Saint-Esprit par imposition des mains, voici la réponse claire et sans ambiguïté qu'il reçoit. Je lis, Actes chapitre 8, verset 20. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » C'est de là que vient le terme de simonie, pour qualifier toute action de monnayer les grâces divines. Trafic honteux qui perdure, entretenu par l'ignorance de l'Évangile. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre déclare que « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes ramenés au centre de l'Évangile. » Et comme le rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4, je lis « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà la bonne nouvelle. Christ a expié pour nos péchés. Et l'apôtre Paul décrire dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Puis au chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le don gratuit. Mais un don est par définition même gratuit. Les puristes parleront d'un pléonasme. Ce qui est certain, c'est que le message est clair. Le salut est un don de Dieu. Et ainsi, le pauvre n'est pas défavorisé, ni le riche discriminé, car l'un comme l'autre sont sauvés par la voie du salut. Et cette voie du salut est dans la repentance et la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. En fait, nous n'avons pas d'autre possibilité, pas d'autre choix que de saisir la main que Dieu nous tend. Avez-vous vu quelqu'un qui est en train de se noyer, ergoté sur la couleur de la buée qui lui est lancée, au motif qu'il aime le bleu et que la buée est jaune ou rouge? Impensable! Or, parfois l'homme pécheur, par incrédulité, ergote et refuse la manifestation du grand amour que Dieu nous a témoigné en nous envoyant son Fils Jésus. Le salut, c'est-à-dire le pardon des péchés, ne s'impose à personne, mais il est offert à quiconque croit. Comme nous le rappelle le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est pour toi que Christ est mort sur la croix du calvaire. Sa vie a été offerte en sacrifice, comme une rançon, pour expier tes péchés. Le Seigneur t'a donné rendez-vous en cet instant et t'annonce qu'il ne tient pas compte des temps où tu as agi par ignorance. C'est simplement pour toi maintenant le temps de la repentance. Demande-lui de te pardonner et crois que le sang versé par Jésus à la croix te purifie de toute iniquité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, faisant aujourd'hui fonction d'ambassadeur pour Christ, je t'en supplie, sois réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Bien-aimé, le seul refuge qui t'est proposé est tout simplement de saisir la grâce de Dieu. Crois et sois sauvé. C'est le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour toi. Amen.